La brochure.
La brochure.
La brochure.
La brochure.
La brochure.
Bonjour.
Bonjour.
On se retrouve aujourd'hui pour la nouvelle, la fin de cette brochure Échapper à l'oubli, première tentative de Gianni Dimitrakis. Et nous passons désormais à la partie derrière les barreaux. Un nouveau chapitre s'est ouvert dans ma vie à ce moment-là, et il refuse toujours de se fermer. Vous savez, c'est ce que j'ai coffré pour un délit très grave selon leur code pénal. Un braquage de banque avec un butin de 110 000 euros, mélangé artificiellement avec 6 autres affaires et un tas d'autres crimes dont les chacals du quartier général de la police m'ont facilement chargé. Accomplissant leur vocation sacrée avec un sens parfait du professionnalisme et de l'honnêteté qui les a toujours caractérisés, mais aussi des mandats d'arrêt pour 3 amis et compagnons, Marios, Grigoris et Simos, désignés comme étant des mécomplices et qui dans le temps ont été rebaptisés voleurs en chef et considérés un lien qui aiderait à démanteler les groupes armés de guérilla du pays. Qui sait quoi d'autre encore? Tout cela écrit dans différents journaux distingués, puant ou avancés par les journalistes de la télévision à l'éthique et au mérite indiscutable, vomissant la propagande policière. Le résultat? En octobre 2009, la nouvellement établie organisation terroriste parlementaire PASOK, Parti Socialiste, mit une prime de 600 000 euros sur leur tête, leur rendant ainsi la vie encore plus difficile, sachant qu'ils étaient déjà en cavale et se cachant dans leur lorgnette des organes de la justice, refusant de reconnaître les mandats d'arrêt.
Et si les choses ne s'étaient pas aggravées, quelqu'un aurait pu peut-être, bien sûr avec difficulté, avaler la pilule amère. Mais non, les diables devaient encore briser une jambe. Pas pour moi cette fois, mais pour Simos. Et cette fois, il ne se l'est pas seulement brisé, mais il a littéralement perdu. Envoie la main armée à l'hypermarché Praticaire dans la rue Piraeus, près des Gazi. Hurlement, coupe de feu, personne blessée, chaos total. La police arriva sur le lieu de l'incident et écouta un témoin visuel dire qu'un des criminels était grand et voilà que les papillons battirent ses ailes au Vietnam et causa ainsi la tempête qui frappa les quartiers de Keramikos à Athènes. Pas une fois, mais deux, en dehors de la traque hasardeuse, l'arrestation et la blessure sérieuse de Simos, dans le même temps, un autre ami et compagnon, Harris, fut attrapé dans la même ère et ensuite emprisonné pour des accusations complètement ridicules et construites de toutes pièces. Des accusations qui ont été inventées plus tard par les autorités oppressives dans les bureaux de l'inquisiteur, juste avant qu'il ne soit relâché pour les délits dont il était accusé lors de son arrestation à Keramikos. Et si lui voler sa liberté au dernier moment n'était pas assez, ils l'ont privé de son père, un compagnon pour nous. Son cœur ne pouvait endurer tant d'injustices, de colère et d'indignation. Il nous a dit au revoir à tout pour toujours. Si jamais en arrêt tout ce qui s'est passé récemment, depuis la maudite année 2010, tous les développements sinistres dans le milieu anarchiste, je dois être assez attentif et avoir une bonne mémoire, même pour me rappeler juste les noms de ceux impliqués, pour n'oublier aucun compagnon ou compagnonne. Comme Lambros, à qui une balle de la police à son nom gravé prit sa vie dans la rue de Daphne, alors qu'il expropriait une voiture en vue des plans futurs pour la guerre des classes. Comme Harris, Panagiotis, Constantina, Ilias, Georgos, Polycarpos, Vagelis, Christos, Bonanno, Pola, Nikos, Vagelis, Costas, Christophoros et Sarantos.
Laissant maintenant de côté l'évaluation triste et tragique de 2010 et replongeant dans ma narration des jours noirs de mon passé et du début d'une vie entourée de barreaux, les recherches dans mon disque dur biologique s'arrêtent quelque part à la fin de janvier 2006.
Je me rappelle toujours ce matin ensoleillé où les flics m'ont notifié à l'hôpital général d'Athènes que je devais me préparer pour mon transfert à l'hôpital des prisonniers d'Agios Pavlos. J'ai un souvenir vif de ce moment-là, car il a marqué la fin d'une tempête de neige qui avait frappé la Grèce tout entière, amenant le chaos et le désordre dans les zones urbaines, paralysant presque tout, démantelant, quoique pour quelques jours, les structures organisées des grandes villes et rendant discontinue toute forme de transport et des plans, ainsi que le travail de tous les jours dans le secteur privé et public.
Nous avions attendu cette même tempête de neige, ou du moins une période de mauvais temps qui, selon le bulletin météo, devrait arriver. Pour nous aider à mener à bien notre objectif impie, braquer la Banque Nationale à l'intersection des rues Solonos et Hippocratus. C'était un point central d'Athènes, et nous avions des anticipations optimistes sur un gros butin. Bien que clairement accompagné d'un risque disproportionné, presque prohibitif. Pas que nous voulions décaler le jour de l'attaque dans le cas où le temps n'était pas en notre faveur, nous n'étions pas ce genre de gamins. Le jour avait été décidé, lundi 16 janvier. Un assez mauvais jour pour mener à bien une telle action, sachant qu'au début de la semaine, chacun est à son poste et prêt à accomplir son devoir, surtout les flics. Quelque chose était déjà désespérément en train de nous pousser au bord du gouffre.
Finalement, le temple nous joua un sale tour et lundi matin, le soleil, triomphant et fier de sa victoire sur un hiver mourant, s'éleva haut dans le ciel et sans obstacle, frappant de ses chauds rayons les citoyens de l'Attique. Les résultats ? D'un côté, tout le monde était des sorties pour affaires ou se balader, un fait qui joua de manière positive pour nous, les malchanceux, car le centre rassemblait un fleuve humain visqueux dans lequel vous ne pouviez vous déplacer que difficilement. D'un autre côté, comme les autres dans la voiture, j'étais paré d'un pull, d'un manteau d'hiver et des outils martiaux pour l'expropriation. Rouge et en sueur, nous maudissions notre mauvaise étoile alors que nous regardions toutes ces patrouilles dans le centre d'Athènes paradant dans le soleil avec les sourires.
Pensif et nerveux d'avoir vu les premiers mauvais signes, nous sommes arrivés au point de rendez-vous que nous avions prévu avant de se diriger vers notre destination finale. Là, nous avons retrouvé les autres. Nous avions tous définitivement la même mauvaise impression. Nous étions un petit cercle de conspirateurs, loin de tout ce qui se passait autour de nous, étrangers au climat général de joie qui émanait de l'atmosphère de tous ceux qui étaient venus dans le centre-ville pour profiter des beaux jours. Notre univers était à ce moment-là, et dans ceux qui ont suivi, à des années-lumière de celui à qui les autres appartenaient. Notre univers allait rentrer en collision avec le leur, et violemment, rendant notre présence tangible dans quelques minutes, quand nous croiserons les chemins parallèles de nos vies différentes se croisant rarement. Une invasion momentanée d'un monde dans un autre qui créerait une chaîne d'événements incontrôlables. Une gifle de plus dans la gueule de la normalité. Une gifle de plus dans la gueule de la séquence coordonnée, horizontale et rectiligne des choses. Quelque chose comme un carambolage sur l'autoroute quand les agissements d'un conducteur trop rapide ou peu attentionné ont des conséquences sur le destin d'autres passagers, brisant et bloquant le flux normal du trafic selon la taille du carambolage.
Ce qui nous attendait déjà au point de rendez-vous avait des mauvaises nouvelles. Alors qu'ils venaient à notre rencontre, ils avaient passé un barrage policier qui était si proche du lieu de l'action qu'il posait un sérieux risque à toute l'opération, la rendant quasi impossible. Les réactions immédiates telles qui s'en tape, faisons-le, et ce qui devra arriver arrivera, oh putain, mettons ça de côté et essayons une autre fois, étaient partagées par quelqu'une d'entre nous qui allait voir si les barrages étaient toujours là, pour ensuite agir en conséquence. Finalement, les flics étant partis, même si parti est tellement relatif dans le centre d'Athènes et encore plus à l'endroit où les banques étaient, de la même façon que comparer une pizza surgelée à celle d'une bonne pizzeria à l'Est. Bien sûr, ce qui suivit a tout à voir avec la loi de Murphy, selon laquelle si vous faites tomber une tartine avec de la confiture dessus, 9 fois sur 10, elle tombera sur le sol, sur la tranche beurrée. Le fait que tous les repas appartiennent définitivement à cette histoire avec la confiture, ce sont ces facteurs maudits incertains qui peuvent tout renverser et par-dessus tout, la nature imprévisible du caractère et comportement humain. Une tournade des visages et choses qui, après avoir stoppé son vent maniaque, rejette dans une zone urbaine. Un gardien de banque crétin blessé par son incroyable stupidité de vouloir stopper la fuite des 4 braqueurs dans sa perception totalement fausse et distordue des limites de son devoir. Une voiture abandonnée qui ne veut pas démarrer, un sac avec des armes et de l'argent, 3 personnes qui se sont furieusement dispersées dans la foule anonyme, et votre orateur laissé derrière, blessé dans les mains de ses poursuivants.
Le même soleil qui réchauffa ce jour hivernal de janvier, indifférent à ce qui se passe à des milliards de kilomètres de lui, a fait une fois de plus son apparition ce matin, encore dans l'hôpital, et créé ses projections parallèles de la mémoire.
Je m'attendais à ce que cela arrive à un moment ou à un autre. Je savais qu'il s'avait mis la pression pour me sortir bientôt de l'unité de soins intensifs, et j'appris qu'ils étaient dans l'urgence de me jeter à l'hôpital de la prison, pour se débarrasser de moi. J'avais toujours les agrafes, des bouts de métal de la forme d'un pi grec, similaires à ceux avec lesquels ils fixent les cuirs sous les squelettes d'un canapé, de la poitrine à laine ou d'un peu de rafistolage sur ma personne. Mais qu'importe que je proteste aussi fort pour ne pas être bougé de l'hôpital, les porcs avaient leur ordre de leur supérieur. Et depuis que le supérieur l'avait dit, que pouvais-je faire ? Avec de grands efforts et douleurs, j'ai commencé à rassembler mes affaires, rétamé et incapable même de redresser mon propre corps. Juste quelques détails mineurs quant au supérieur. Évidemment, ceci était aussi compris dans les prix que j'ai commencé à payer pour mes choix.
Toutefois, les touches finales de mon expulsion hâtive de l'hôpital étaient toujours à venir. Avant que 2 dizaines de toquis de la police, d'armes, de bottes et encore tellement de cerveaux problématiques ne soient en capacité de coordonner l'opération transfert sécurisé. Voilà que ma mère se montra, arrivant juste à l'heure pour la visite régulière à son fils bien-aimé.
Ma mère, Madame Eleni, séparée de son fils par 17 ans tout juste. C'est pour cela que dans les années 90, à chaque fois que nous ouvrions la porte à un vendeur de livres, il demandait « Où est notre mère ?» Madame Eleni, qui, entendant la nouvelle que j'étais impliqué dans un braquage de banque qui se termina avec moi grièvement blessé, était à 2 doigts d'avoir une crise nerveuse. Quoique pas complètement, les flics au quartier général, le quartier général de la police d'Athènes, on entend ça, n'arrivant pas à obtenir une quelconque déclaration de sa part en fin de compte, alors qu'elle commençait à hurler hors de contrôle « Je vais voir mon fils !» Les flics paumés face à sa réaction, eh bien, que pouvaient-ils faire ? C'était une mère inquiète pour son fils. La passer à tabac ? La jeter dans la salle de détention pour qu'il ne puisse plus l'entendre ? Cela aurait été comme ça, au pire si nous étions 60 ou 35 ans en arrière, soit pendant les jours noirs de la guerre civile en 1846, soit plus tard dans la période de 70 ans des lâches ordures de la junte. Bon, nous étions en 2006 et nous traversions déjà 30 ans d'oligarchie parlementaire pseudo-démocratique où les comportements fascistes et hautement autoritaires étaient cachés d'autres, plus flexibles et peut-être plus efficaces formes de violence. Dans tous les cas, les hurlements de ma mère l'amèneraient dardard à l'hôpital où j'étais enfermé et les déclarations furent reportées à plus tard, comme s'il pouvait les oublier.
Donc ce mélange d'une femme avec de fortes doses d'instinct maternel qui, comme une femme authentique, se transformait en lionne, une bête sauvage quand elle sentait que l'un de ses enfants est en danger et menacé, en comparaison avec son comportement de tous les jours face aux institutions, pouvoir et normes volontaires s'est montré ce matin-là, sans être préparé à ce qu'il se passait à ce moment-là, mais sur le pied de guerre comme toute mère, et était prête à s'opposer à tout ce qui mettait en danger mon intégrité physique et psychologique.
Comme on peut aisément l'imaginer, mon rapide transfert à l'hôpital de la prison fut reporté pendant quelques instants, jusqu'à ce que la responsable, à savoir ma mère, retournât avec le docteur qui m'avait pris en charge et qui, tel qu'elle l'a dit, était le seul à pouvoir décider de m'autoriser à quitter l'hôpital. Ainsi, les choses furent faites. Une foule de blouses blanches, troublées et clairement surprises, avec ma mère au premier rang, apparurent au loin, se dirigeant vers les brancards qui étaient déjà prêts pour le départ.
Qui a donné l'ordre de transfert de ce patient ? Demanda un des docteurs aux flics. Nous avons des ordres d'en haut, monsieur. Ce n'est pas notre décision. Peut-être que je peux parler avec votre supérieur ? Un moment, je dois confirmer.
Étendu que ce qui avait l'autorité et ce responsable était impliqué dans un duel verbal, mon brancard fut ramené dans la chambre, l'issue de la bataille entre les flics et les docteurs ayant finalement été trouvée, afin de jeter un dernier coup d'œil. Pour enlever les dernières agrafes, prescrire des médicaments que je devais continuer à prendre et m'assurer que les plus durs et les soins les plus importants étaient derrière, et que la seule chose pour que ma force revienne était du repos et une non-retour abondante. C'était sûrement une demi-vérité, ou plutôt un mensonge bien emballé dans l'impuissance. Les combats entre les docteurs, ma mère et les flics vinrent à mes oreilles, avec les premières insistantes sur le fait que je n'étais toujours pas prêt pour quitter l'hôpital, et ces dernières répondant de façon monotone qu'ils suivaient simplement les ordres. De toute évidence, suivre les ordres a prédominé, comme prévu.
Mais est-ce la première fois que la balance penche en faveur des flics et de leur putain d'ordre ? Une telle situation ne s'est-elle pas déjà déroulée dans l'unité de soins intensifs sur la question de m'y garder ? L'équipe médicale réussit pendant 2 jours à résister à la pression des forces de sécurité qui voulaient envahir ma chambre. Leur argument clé étant que cela serait dangereux non seulement pour ma santé, mais aussi pour d'autres patients. Malgré tout, il serait naïf de croire que les valeurs humaines fondamentales pourraient prévaloir sur le nouveau dogme de répression et sécurité.
Une telle chose ne s'est-elle pas déjà produite quand les chefs de l'unité des soins intensifs vinrent m'annoncer des conflits qu'il était dans l'impossibilité de me garder plus longtemps sous sa supervision, même si mon état de santé le requérait, étant sous une pression extrême de la part des autorités judiciaires qui voulaient que je sorte de l'unité des soins intensifs et la poursuite de mon hospitalisation dans les départements d'ophtalmologie. Pourquoi là et pas dans les départements de chirurgie, mais encore pour des raisons de sécurité? Les flics exigeaient qu'une chambre entière soit vidée des autres patients, juste pour qu'ainsi ils puissent me surveiller de la façon qu'ils jugeaient appropriée, même si c'était impossible pour l'hôpital. Donc, je fus emmené à la chambre dans le département d'ophtalmologie qui était déjà préparé car, comme j'en fus informé, il avait accueilli Dimitris Kofoudinas lors de la grève de la faim qu'il mena pour qu'il supprime les filets de sécurité qui recouvraient la promenade de l'aile de la prison où lui et les autres du groupe armé 17 novembre étaient enfermés. Préparé. Oui, elle était préparée. Ce qu'il n'y avait rien dedans, ou mieux. Ils avaient chelé tout ce qu'ils pouvaient, toujours selon eux, être utilisé par les prisonniers pour une possible tentative de suicide ou une attaque contre les gardes. Et bien sûr, la porte du balcon était munie de barreaux. La logique carrée de la stupidité à son apogée.
N'est-ce pas le dogme de la sécurité et de l'intimidation qui, d'un clin d'œil, annihile toute trace de respect de la dignité de l'existence humaine dans cette pièce ? N'était-ce pas du pur sadisme et revanche qui mena ces sous-hommes à observer ma mère quand elle me torchait alors que j'étais encore alité, sans même détourner leur regard un instant. N'était-ce pas leur comportement grégaire qui, durant tous ces jours où j'étais dans leur étreinte suffocante, amena l'interrogateur et le procureur, venu pour prendre ma déclaration, à me trouver somnolent, en manque de sommeil et épuisé? Ou existait-il une trace d'humanité chez le bourreau, le procureur Idiostis, quand il vint me rendre visite, en hâte de prendre ma déclaration alors que j'étais encore intubé, visiblement incapable même de chuchoter une phrase complète, n'ignorant non pas seulement, mais posant aussi une menace à mon état de santé tragique?
Ce sont bien sûr des questions rhétoriques et elles ne sont pas posées comme un cri de protestation des plus envers les piétinements des droites démocratiques, mais comme un recensement des termes dans lesquels les conflits entre deux forces opposées, entre deux mondes complètement différents, est mené. D'un côté, nous avons ceux qui rêvent d'une société totalement subjuguée et asservie, au service des appétits oligarchiques, des paresseux insatiables. D'un autre côté, ceux qui se battent pour une vraie égalité, justice et liberté, créant une nouvelle réalité loin de termes comme les profits, la compétition, l'exploitation et la domination.
Pendant que les roues du brancard passaient sur les petites irrégularités du sol de l'hôpital, chacun d'entre eux se transformant en une vive douleur dans mon dos opéré, la meute, le troupeau sauvage, qui m'escortait au milieu des cris et des ordres consécutifs contradictoires, mena, à son grand soulagement, à ma sortie définitive de l'hôpital général d'Athènes. Les premiers rayons de chaude lumière que je vous raconterai sur le patio, où attendaient l'ambulance et les voitures d'escorte pour mon transfert en toute sécurité à l'hôpital pour détenus, Adios Pavlos, étaient réellement libérateurs, comme s'ils purifiaient ma coexistence épuisante pendant 3 semaines avec des cerbères en uniforme. Ces quelques secondes qui passèrent jusqu'à ce que je sois mis dans l'ambulance furent ma dernière chance de respirer de l'air frais et de regarder le soleil sans l'interférence des grilles et de barbelés. Avec le soleil pour compagnon, je fis mes derniers adieux à la liberté et entrai dans l'hiver le plus profond de ma vie.
J'ai un petit truc à dire, j'ai trouvé émouvante cette conte, même si il y a des mots que je trouve pas du tout agréables, ça veut dire un peu spéciste, mais voilà, alors, on lit ça pour faire connaître ce qui se passe, et on est toujours dans l'idée de critiquer, d'analyser ce qu'on lit.
Bien sûr, mais ce texte, je le répète encore, c'est le texte de l'anarchiste Gianni Dimitrakis qui est tiré du premier numéro de Détruisons la Bastille, voix depuis l'intérieur des murs. C'est quand même c'est assez vieux, mine de rien, ce texte aussi.
Oui, c'est trop vieux.
On se retrouvera pour une nouvelle brochure bientôt.
Ouais, c'est sûr.
Et puis à bientôt sur les ondes de Radio Saint-Afrique.